Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous sur Radio Présence à l'écoute du numéro de rentrée de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est la reprise pour Mélomanie après la période des vacances estivales. J'espère que vous avez tous pu prendre un repos bien mérité et peut-être aussi assister à de beaux concerts lors des nombreux festivals qui se tiennent dans notre région. Quelques-uns sont encore en cours en ce moment et d'autres s'apprêtent à lancer leur programmation. C'est le cas de Piano Jacobin dont la 45e édition a lieu du 5 au 30 septembre. Il y a 16 concerts et donc 16 pianistes à découvrir cette année. Pour vous les présenter, je suis très heureux d'accueillir Paul-Arnaud Péjouan, celui qui a cofondé et co-dirige toujours le festival aux côtés de Catherine Dargoubet. Piano Jacobin, c'est incontestablement à la fois le grand événement musical et l'un des bonheurs de la rentrée pour tous les mélomanes dans la belle lumière des fins de journée de septembre. Un autre bonheur pour moi, c'est de retrouver dans cette émission mon ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. C'est parti pour une nouvelle saison de Mélomanie et pour une première rubrique agenda que nous allons donc entièrement consacrer au 45e festival Piano Jacobin.
Mélomanie, l'agenda.
Bonjour Paul-Arnaud, bonjour Serge, ravi d'ouvrir cette nouvelle saison de Mélomanie en votre compagnie pour nous plonger ensemble dans la programmation du Piano Jacobin 2024. 45e édition pour ce festival où se sont produites de nombreuses légendes du clavier depuis 1980 dans le superbe cadre du cloître des Jacobins. On approche du demi-siècle d'existence pour cette manifestation. Est-ce que ça ne vous donne pas parfois le vertige, Paul-Arnaud ? Est-ce qu'il ne vous arrive pas d'être un peu incrédule devant le chemin parcouru, chemin parsemé de rencontres incroyables et de grandes émotions musicales ?
J'ai le vertige, moi, sauf quand je suis sur les skis. Ski, j'ai pas le vertige. Autrement, j'ai le vertige. Donc, oui, c'est une bonne réflexion. Bien sûr qu'on se l'est faite souvent avec Catherine. On a fait des récapitulatifs des légendes qui sont passées au festival. Et à ce propos, je veux dire une chose, parce que on a quand même été le premier festival en France entièrement consacré au piano. Avant Absolument. Le célébrissime La Roque d'Anthéron, oui. qui surcommunique et qui a la chance d'être, comme je dis souvent, Saint-Germain-des-Prés en Provence. Hein, nous savons que c'est un territoire où, notamment, les élites médiatiques aiment à se retrouver.
C'est une annexe de Saint-Germain-des-Prés.
Voilà. Une annexe germanopratique. Voilà. Bon, ceci dit très amicalement, mais nous sommes le premier festival entièrement consacré au piano et je dois dire qu'avec Catherine, nous avons invité des légendes du XXe siècle qui n'avaient pas et qui n'ont pas joué à La Roque d'Anthéron. Et ça, pour nous, c'est une immense fierté, parce qu'on a eu ce talent de faire revenir en France des pianistes aussi légendaires que Firkusny, aussi légendaires que Gorgui Chandor, je ne peux pas tous les citer là.
Orchovski,
qui est venu à 98 ans.
Ouais, ouais.
Et je crois que j'avais raconté à l'émission ici, avec l'anecdote, quand il m'a dit « La dernière fois, je suis venu, c'était en 1916, pour un récital à Carcassonne, j'ai failli avoir un accident de voiture, je conduisais. » freiner brutalement.
En parlant de vertige, là oui, ça donne le
voilà.
vertige.
Non, c'est un vertige heureux parce que c'est quand même une satisfaction incroyable d'avoir eu toutes ces légendes, toutes ces personnalités très fortes. Beaucoup sont disparus, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de déjà été dans la fin de leur âge, mais c'est quelque chose aussi qui nous nourrit et qui fait que depuis maintenant une dizaine d'années, on met l'accent davantage sur les jeunes pour justement montrer que Jacobin, ce n'est surtout pas un festival nostalgique. On est très fiers du parcours que l'on a fait, mais on le voit cette année, il y a pratiquement plus de 40% des pianistes qui ont moins de 30 ans. Et cette vitalité, cette volonté qu'a Catherine aussi de découvrir chaque année de nouveaux talents, eh bien pour nous, c'est une source, je le dis, c'est une source de jouvence. On se porte très bien.
Et oui, vous avez invité beaucoup de très jeunes pianistes à l'époque qui étaient inconnus. Et il y en a un, bon, évidemment, on va le citer encore une fois, mais c'est Bertrand Chamalu, il avait quoi, 15 ans quand vous l'avez invité
Je crois même qu'il avait 14 ans,
oui, il avait fait
pas
15 ans.
Concert. Ouais. Alexandre Kantorov, on l'a invité, il avait 16 ans. Bon, énormément de jeunes pianistes ont fait leur début au Jacobin. Sergio Tiempo et tant d'autres, et tant d'autres.
Et on retrouve l'esprit du festival tel que vous venez de l'évoquer dans la programmation de l'édition 2024. Il y a bien sûr quelques habitués et fidèles du cloître des Jacobins, mais il y a surtout une grande place donnée aux jeunes talents du piano international, et ce, dès le concert d'ouverture, le 5 septembre à 20h, lors duquel se produit la jeune pianiste américaine Rachel Breen. première à Toulouse pour cette musicienne qui vit en Europe, il me semble. Je vais vous laisser la présenter et nous dire quel programme elle va jouer ce jeudi soir.
Alors Rachel Breen, c'est important de le souligner, ça sera son premier concert en France.
C'est même pas à Toulouse, c'est en France.
C'est en France, hein, et je crois qu'il y en a un autre aussi, on en parle tout à l'heure. Elle a un programme extrêmement varié qui va de Mozart en passant par Berlioz, Moussorgski, Schoenberg, Beethoven, avec quand même la
sonate, la fameuse 111 pour finir.
Pour finir. Oh là là. Donc, If Life Follows Us, la jeunesse, mais c'est toujours intéressant de voir un jeune pianiste justement aborder ces montagnes du piano. Donc, je crois que c'est toujours une chance qu'on a de découvrir un peu leur approche et la façon qu'ils ont de se confronter à ces monuments. C'est une artiste avec une très grande maîtrise pianistique. Elle a été l'élève de Lars Vogt.
Oui, à Hanovre.
Voilà. Et je crois que son programme est très éclectique.
C'est impressionnant. Hein,
ouais, exactement.
Passer de Mozart à Berlioz,
mais voilà,
c'est formidable.
Je pense qu'on va avoir une soirée tout à fait intéressante.
Oui, parce qu'elle a le redoutable honneur d'ouvrir le festival. C'est pas rien déjà en soi, mais en plus, elle n'a pas choisi la facilité.
Et on le verra, on a beaucoup de programmes très originaux, justement.
Absolument.
Ce qui est souvent le cas, d'ailleurs.
Oui, on laisse carte blanche aux artistes systématiquement, de façon à ce qu'ils puissent vraiment porter la musique qu'ils ont envie de jouer à ce moment-là de leur vie.
Le lendemain, vendredi 6 septembre, toujours à 20h, tous les concerts sont à 20h. Je parlais d'habitué. Vous avez invité une valeur sûre du piano français, Philippe Bianconi. Voilà un pianiste dont la notoriété auprès du grand public est, à mon sens, inversement proportionnelle à son talent, parce que Bianconi, c'est vraiment un très très grand musicien, en tout cas pour moi.
Bianconi, c'est une histoire d'une très grande amitié entre Piano Jacobin et lui. Nous avons fait son premier récital au Théâtre des Champs-Élysées à l'époque où nous faisions un concert par an à des Champs-Élysées. De mémoire, je crois que ça a duré une quinzaine d'années. Donc, on a toujours une relation très forte avec lui. C'est un pianiste pour lequel j'ai une admiration très grande. On a fait 3 tournées en Chine avec Philippe Bianconi. On l'a amené au Japon à l'époque où on avait les internationalisations du festival très importantes. Le problème de Philippe Bianconi, vous le soulignez, c'est que c'est un immense artiste dont la modestie est aussi grande que son talent. Et on sait qu'aujourd'hui, la modestie n'est pas une qualité médiatique.
Non.
Bon, donc j'apprécie énormément, Eric, ce que vous dites, qu'il devrait avoir une reconnaissance en France beaucoup plus importante. Il l'a aux États-Unis. Puisque donc il a été quand même le deuxième prix du Van Cliburn, donc il passe 2 mois par an aux États-Unis.
Et il a été directeur du conservatoire américain de Fontainebleau, oui, Philippe Bianconi, pendant 5 ans. Hein.
Bien sûr, et aujourd'hui il est professeur de l'école normale. C'est un pédagogue absolument admirable. Moi j'ai eu la chance d'assister à certaines de ses masterclass. Et donc là il a un programme où il va être dans son jardin avec Saint-Saëns, Fauré, Ravel. C'est un merveilleux interprète de la musique française. Oui. Et il va quand même nous donner aussi 2 pièces de Liszt. J'allais dire pour l'émerveillement des oreilles.
Il y a la filiation de toute façon.
Voilà.
Depuis Liszt, le piano français, évidemment, voilà. On le retrouve jusqu'à Ravel. Hein.
Donc, magnifique programme avec le fil de l'eau. Hein, c'est un programme un petit peu...
Retour de vacances.
Voilà. Hein. Et je crois que, de toute façon, il a quand même son public. Je ne veux pas vous dire, je pense que c'est la 6e ou 7e fois qu'il vient au festival. Donc, c'est quand même un ami et un immense pianiste.
Donc, grand interprète de la musique française, vous l'avez dit, il y a un peu plus d'un an, il avait fait paraître une superbe intégrale piano Ravel, qui a été saluée unanimement par toute la critique. Les critiques ne s'y trompent pas quand même concernant Bianconi. Et donc, il va jouer effectivement Jeu d'eau et Miroir de Maurice Ravel. Vous savez, Miroir, Une barque sur l'océan, Alborada del Gracioso, Noctuel. Superbe programme. Nous allons écouter Philippe Bianconi dans une pièce de ce programme, de ce concert donc, du 6 septembre. Une barque sur l'océan, ça va vous rappeler des souvenirs de vacances peut-être. Extrait de Miroir de Maurice Ravel. Une barque sur l'océan, extrait de Miroir de Maurice Ravel et extrait de l'intégrale Ravel qu'a fait paraître Philippe Bianconi en 2023 sous le label La Dolce Vita. C'est donc une des œuvres au programme de son concert du 6 septembre au Jacobin. La suite, samedi 7 septembre, c'est déjà le premier concert de jazz de cette édition 2024 pour lequel vous avez donné une carte blanche au pianiste israélien Omri Mor. Je ne sais pas si je prononce bien son nom.
Si, je pense. Oui.
Voilà, bon, alors le jazz, évidemment, c'est une tradition hein, maintenant. Longuement établi à piano jacobin.
Oui, c'est une tradition longuement établie, avec un soutien particulier à la Fondation BNP Paribas, qui a fait du soutien au jazz une de ses priorités artistiques, et on est heureux d'y participer. Omri Mor, c'est un pianiste israélien qui a une inspiration musicale très variée, du classique. Il a beaucoup travaillé aussi la musique arabo-andalouse. Il a beaucoup joué en trio, en quintette, il a joué aussi avec orchestre. Donc c'est un musicien accompli et je pense que cette inspiration variée lui permet justement d'avoir un niveau d'imagination, d'improvisation qui devrait surprendre agréablement le public toulousain et le public des jazzeux parce qu'on est très heureux. Ces concerts de jazz, on en a 3 cette année, on en avait 4 l'année dernière et ce sont des concerts qui ont trouvé leur public et qui fonctionnent très bien. On les a mis volontairement le samedi pour le côté un petit peu festif, justement, du samedi. Et on le voit avec grand plaisir. C'est un public différent, un public qui est heureux d'écouter cette musique au cloître, qui trouve toute sa place et sa résonance.
Eh bien, puisque vous en parlez, on va évoquer tout de suite les 2 autres concerts de jazz. Donc, il y aura Carla Martinez. Alors, une jeune pianiste cubaine.
Carla Martinez est une pianiste que j'ai rencontrée à Cuba parce que je suis maintenant un petit peu très impliqué dans le festival de jazz de La Havane au niveau du piano et de cette jeune génération de pianistes cubains, dont Rolando Luna, que nous avons énormément soutenu au festival et qui est un pianiste absolument incroyable.
Qui était à Marciac encore.
Qui était encore à Marciac, où il a fait un solo de 30 minutes qui a été particulièrement remarqué. Et donc Carla Martinez, elle est de formation classique, elle n'est pas connue comme pianiste de jazz, et elle va justement proposer un concert sur les origines du jazz et de, j'allais dire, les sources classiques du jazz et de la musique latino, avec des compositeurs qui, pour la plupart, vont être joués pour la première fois en France.
Oui. Hein,
on ne va pas les citer parce qu'ils sont totalement inconnus.
Non, sauf peut-être des spécialistes.
Voilà,
non,
ça va être un concert extrêmement joyeux, extrêmement, j'allais dire, vitaminé, parce qu'on va se rendre compte que déjà, au 19e siècle, au début du 20e, tous les fondements, y compris les tempi denses, ont été créés par des compositeurs très novateurs à l'époque.
Donc Carla Martinez, samedi 14 septembre à 20h, et Tom Oren, le 28 septembre, encore un Israélien d'ailleurs.
Encore un Israélien, il a gagné le prix Thelonious Monk, donc évidemment un des prix de jazz les plus, prestigieux,
grand prix, là,
les plus prestigieux du monde, et donc lui aussi, pas encore trop connu en France, mais je pense que ça sera une soirée passionnante.
Mardi 10 septembre, on revient au piano classique. Rendez-vous avec un très grand pianiste, un habitué du cloître des Jacobins, Christian Zacharias. Lui, je ne saurais pas dire combien de fois il est venu au festival.
Mais plus de 10 fois, sûr.
Voilà, ce que je peux affirmer, c'est que c'est vraiment un ami pour vous et Catherine Darougue.
Ah ben c'est surtout un très grand ami de... Je connais Christian, je l'aime beaucoup, évidemment, mais c'est surtout un ami très personnel de Catherine, qui a été souvent au jury des concours qu'il présidait. Ils ont une amitié, une histoire musicale très forte entre eux. Et on est très heureux d'accueillir probablement un de ses derniers récitals, puisqu'il a décidé de se consacrer intégralement à la direction d'orchestre. Et donc, c'est pour nous une marque d'amitié très grande qu'il vienne faire encore un récital avec ce programme extraordinaire.
C'est un feu d'artifice. Hein.
C'est un feu d'artifice.
Et c'est un nombre de pièces incroyable.
Voilà, mais ça, c'est Christian.
5 avec compositeurs différents.
J'allais dire, il y a un côté un peu zen dans le bon sens du mot de sa musique, dans le sens de l'approfondissement, de la rigueur, de l'absence d'effet, d'aller toujours au cœur du texte musical. Et c'est une leçon de vie et une leçon de musique.
Mais je crois qu'on peut dire de Christian Zacharias qu'il est plus qu'un pianiste, il est vraiment un artiste.
Mais bien sûr.
Au fond, et vraiment, il fait des choses fabuleuses, aussi bien à la direction qu'au clavier. Donc c'est vraiment un très, très grand.
C'est un des grands géants du piano contemporain. Et j'espère qu'il reviendra quand même de temps à autre au récital pour notre plus grand bonheur.
Il va jouer donc un programme Schubert, Haydn, Couperin qu'on redécouvre depuis quelques années, qu'on joue de plus en plus en concert, et c'est une très bonne chose. Il y aura du Poulenc, il a mis un français, et puis il y aura Scarlatti qui lui aussi. Lui, il a toujours défendu, c'est vrai. C'est vrai. Et bien justement, petit aperçu du programme que va jouer Christian Zacharias avec cette interprétation de la sonate en do mineur K158 de Scarlatti. la sonate en do mineur K158 de Scarlatti, extrait du programme que va jouer Christian Zacharias le mardi 10 septembre à 20h au cloître des Jacobins. Le 11 septembre, nous allons réentendre le jeune pianiste japonais Mao Fujita, déjà venu au festival précédemment, un musicien qui trace sa route, et très bien sa route depuis quelques années maintenant, hein, Paul Arnaud.
Oui, surtout cette intégrale Mozart qui a marqué tous les esprits, parce que quand même c'est un immense chantier, une intégrale de l'œuvre de Mozart pour piano, et qu'il a fait avec une maestria et une approche tout à fait extraordinaire. Donc on est ravis de l'accueillir à nouveau, il a été lauréat de grands prix internationaux.
Concours Claraski. 2017.
Voilà, et je crois aussi deuxième prix au Tchaïkovski.
Oui.
Donc c'est un pianiste qui fait une énorme carrière internationale aujourd'hui, qui a une très grande reconnaissance internationale. Il va venir avec Mozart, Beethoven, Scriabine, Liszt. Liszt d'ailleurs où on va retrouver
les
des
années pèlerinages.
Dont d'autres œuvres sont jouées par Philippe Bianconi. Et il va jouer à un compositeur japonais qui s'appelle Yashiro, des préludes de Yashiro. Et je pense
Akio
que
ça, Yashiro.
Voilà, donc c'est quelque chose aussi que Philippe va découvrir, parce que je crois qu'il n'est pas bien connu en France. C'est le moins qu'on puisse dire.
Donc c'est bien d'avoir en même temps des œuvres à découvrir.
Oui, puis c'est un très beau pianiste, Mao Fujita. Alors le 12 septembre, nous allons pouvoir découvrir une toute jeune pianiste française. Elle s'appelle Arielle Beck. C'est vraiment la Benjamine de cette édition 2024, puisqu'elle, je crois qu'elle ne les a même pas, les 15 ans.
Elle va les avoir.
Mais voilà. Alors pourquoi vous l'avez programmée? C'est un gros talent de venir?
Ah, mais c'est impossible de deviner derrière, si on ne la voyait pas. En écoutant son piano, on ne peut pas penser que c'est une jeune pianiste. Si jeune, en tout cas. Et ça, nous ne sommes pas les seuls à le penser. Elle a fait des récitals qui ont vraiment marqué les esprits. J'ai des amis critiques parisiens qui étaient arrivés un petit peu sceptiques, hein, disant « Oui, encore, on nous refait, ça y est, la 8e merveille du monde. » Elle avait 13 ans et demi à l'époque, et qui sont sortis totalement bouleversés du concert. On a eu l'occasion de la rencontrer longuement avec Catherine. Elle est d'une intelligence aiguë.
Oui, ça, je vais le croire.
Dans la vie. Et elle a surtout une appréhension musicale des choses avec un naturel qui est extraordinaire.
Elle compose déjà.
Elle compose déjà, oui, absolument. Non, mais je pense qu'elle est sous la haute protection de Martha Argerich.
Oui, Martha Argerich.
Donc, il y a quand même.
Et Stéphane Kovacevic.
Et Stéphane Kovacevic. C'est difficile d'avoir des parrainages plus prestigieux.
Oui.
Et elle est déjà dans une grande carrière qui ne fera que croître dans les toutes prochaines années.
En tout cas, ça va être, je pense. Non seulement une découverte, mais une attraction, quoi, pour le...
Et ce qui nous fait plaisir, c'est que c'est une des réservations les plus fortes que nous avons.
Oui,
donc,
il y a un effet de curiosité.
L'effet de curiosité joue dans le sens positif du terme.
Programme Haydn, Brahms, Chopin, Fauré, Scriabine. Oui. Arielle Beck, le 12 septembre. Le 13 septembre, place au régional de l'étape, et il est rare qu'il n'y en ait pas un à piano jacobin, dont le conservatoire de Toulouse produit de grands pianistes, et ce depuis longtemps. Cette année, vous avez programmé Nathanaël Gouin, qu'on a déjà entendu au festival,
oui. Un
musicien qui mène sa carrière et construit une discographie de manière très personnelle, Paul Arnaud.
Oui, alors Nathanaël aussi, il a fait partie d'une des plus belles aventures musicales qu'on ait fait avec Catherine, qui s'appelait l'Europe du piano, qu'on a créé dans le cadre des actions culturelles du Conseil de l'Europe, pendant 3 ans, où on a choisi et fait la promotion pendant 3 ans de 5 pianistes de nationalités différentes pour les faire jouer en Italie, en Allemagne, en Hongrie à Budapest, qu'on avait un partenariat avec le conservatoire Francis Budapest, avec des pédagogues absolument merveilleux. Et Nathanaël a fait partie des lauréats de cette époque de l'Europe du piano jacobin. Et c'est un garçon très enthousiasmant, parce que justement, il a le courage de faire des choix qui sont très risqués, même si c'est avec des compositeurs classiques, notamment...
CD Bizet sans parole en 2020, sous le label Mirare.
Oui, Bizet sans parole, et puis de mémoire, un autre disque sur le thème un peu obscur, les compositions un peu obscures de Liszt et autres, qui rencontre un grand succès critique, parce que justement, c'est un disque qui sort des sentiers bien tenus. Il va d'ailleurs donner du Bizet, c'est un des rares pianistes qui joue...
Voilà, l'œuvre pour piano de Bizet, je ne sais pas qui la connaît aujourd'hui, hein, Serge.
Bizet, Gounod, Saint-Saëns.
C'est Gounod arrangé par Bizet et Saint-Saëns arrangé par Bizet.
Et surtout, cette incroyable pièce qui est le Saint-Saëns Bizet, le concerto pour piano,
numéro
transcrit,
2, arrangé pour, piano,
pour
seul,
piano seul,
par Bizet.
Qui est une pièce d'une difficulté technique totalement ahurissante.
Mais très belle.
Et là, je pense que le public va vraiment avoir un choc musical.
Voilà, donc il y aura Bizet, Gounod Bizet, Saint-Saëns Bizet, et il y aura du Chopin tout de même. Enfin,
oui.
Considérons que Chopin est quand même un peu beaucoup français. Donc c'est très français, comme romantique français, comme programme. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors ça, c'est un des concerts que je me suis coché. Et pour illustrer ce programme de musique française, où Georges Bizet tient la vedette, donné par Nathanaël Gouin le 13 septembre. Je propose d'écouter un extrait du CD qu'il lui a consacré. C'est le deuxième mouvement Allegro Scherzando du concerto pour piano numéro 2 de Camille Saint-Saëns, arrangé pour piano seul par Georges Bizet. Le deuxième mouvement Allegro Scherzando du concerto pour piano numéro 2 de Camille Saint-Saëns, arrangé pour piano seul par Georges Bizet, joué ici par Nathanaël Gouin, extrait de son CD Bizet sans parole et extrait du programme de son concert du 13 septembre au Jacobin. Oui Serge.
Et c'est un concert qui est soutenu par la
Palazzetto
Bruzzani.
Oui.
Et ben
oui.
Palazzetto Bruzzani
qui défend la musique romantique française.
Qui fait un travail depuis maintenant une dizaine d'années totalement extraordinaire.
Ah oui, oui, oui.
Y compris pour des œuvres lyriques qui étaient complètement oubliées. Je pense à Robert le Diable, que j'ai eu la chance de voir en live à Bordeaux il y a 3 ou 4 ans, je crois, et qui sont vraiment des opéras somptueux.
Et pour la mélodie française, ils ont fait énormément aussi. Bon, pour la musique romantique française en général, donc celle de la deuxième moitié du 19e siècle et du début du 20e, le 14 septembre, il y a donc le concert de la pianiste cubaine Carla Martinez. Et puis après, le 17, rendez-vous avec l'Ukrainien Vadim Kolodenko, qu'il me semble vient pour la première fois.
Il est déjà venu.
Et qui fait surtout sa carrière aux États-Unis. Hein.
Oui, mais enfin, il fait une carrière internationale. Bon, vainqueur du Van Cliburn en 2013. C'est un prodigieux pianiste, vraiment, dans le sens étymologique du mot prodige, avec une puissance d'expression incroyable. C'est une des personnalités, moi, dans cette génération de pianistes, qui m'est le plus cher, parce que vraiment, il a une capacité de porter des œuvres. Il joue énormément avec orchestre actuellement, et c'est pour ça qu'on est heureux aussi de l'accueillir pour ce récital. Récital avec un parcours très extraordinaire, puisqu'on part de Byrd, donc musique de la Renaissance, avec donc des œuvres qui sont très, 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 très peu jouées. Même maintenant, si Sokolov s'intéresse à ce répertoire, depuis depuis quelque temps, mais enfin, c'est assez récent. Il va jouer du Sari Yao, donc compositrice du XXe siècle.
Morte l'an dernier, même du XXIe siècle.
Ah, oui, absolument. Donc ça, je pense que ce sera une découverte pour le public, avec aussi du Beethoven, et il finira avec des mazurkas de Chopin et la sonate numéro 3... universellement reconnu.
Très joli programme de Vadim Kolodenko le 17 septembre. Concert suivant le 19 septembre. Il va nous donner l'occasion de découvrir un autre musicien slave, d'origine bosniaque celui-ci, Peđa Muzijević, j'espère bien prononcer.
Muzijević, absolument.
Voilà, Muzijević, encore un pianiste qui vit aux États-Unis et qui, a priori, alors lui fait ses débuts au festival.
Oui, oui. Catherine m'a dit que c'était son premier concert en France.
Ah oui, parce que
alors qu'il est très connu dans les milieux musicaux américains, bien évidemment, puisqu'il dirige un festival aux États-Unis.
Oui.
Et c'est aussi un pianiste qui est un artiste très complet, puisqu'il s'occupe d'un centre d'art contemporain avec du théâtre, de la danse, des artistes plasticiens. Il a un programme...
Incroyable,
magnifique programme, où il s'est inspiré un peu il disait, c'est une tête proposition, c'est-à-dire que c'était l'époque où il y avait les premiers baladeurs. Donc,
ah oui.
Et il a conçu ce programme un petit peu comme une playlist aujourd'hui.
Sur Walkman.
Voilà, comme une playlist aujourd'hui. Et donc avec des œuvres, on ne va pas toutes les citer, mais là aussi, on passe de Carl Philipp Emanuel Bach à Ravel, à Philip Glass et des compositeurs qui vont être découverts.
Gregory
public,
Spears,
Sylvester
Hoff, Crumb, Henry Cowell, Joel Antale.
Ça, c'est la grande école américaine du XXe siècle. Des pièces souvent très virtuose, très difficile techniquement, mais qu'il va aborder, je pense, avec un enthousiasme qui va emporter le public. En tout cas, concert très original, et j'invite vraiment les mélomanes à découvrir ce type de concert, parce que c'est passionnant de voir des pianistes sortir complètement des sentiers battus proposer comme ça...
Il y a encore un miroir de Ravel, vous voyez ? Il y a des œuvres le fil rouge à travers la programmation. Donc ce programme est assez intriguant, je veux dire, notamment avec tous ces compositeurs américains contemporains. Je propose qu'on écoute Peđa Muzijević dans une interprétation de Thursday Morning, extrait de Seven Days de Gregory Spears. Plutôt minimaliste et proche de ce que fait un Philip Glass, Thursday Morning, tiré de Seven Days de Gregory Spears, joué par Peđa Muzijević, à voir en concert le 19 septembre, grand moment encore à venir le vendredi 20 septembre, où le jeune pianiste Anton Mehreas va jouer un programme entièrement dédié au livre 2 du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, autrement dit une des plus grandes œuvres jamais composées pour le clavier. Et lui, Anton Mehreas, il est finno-cubain. Alors, c'est une première pour lui au festival ?
Oui.
Il me semble. Hein.
Première au festival, je pense aussi premier récital en France.
23 ans.
Alors, pianiste aussi qui fait une carrière fulgurante, notamment avec orchestre, puisqu'il a fait ses débuts au Hollywood Bowl avec un certain Peltokoski.
Oui, à la direction. Bah, c'est son compatriote. voilà. Ils ont le même âge.
Et
hein,
je crois
qu'ils ont fréquenté le conservatoire ensemble.
Je pense qu'il est très probable que Peltokoski assiste à son concert parce qu'il il a déjà manifesté l'immense plaisir qu'il aurait à assister à son concert.
Je crois qu'ils se connaissent depuis longtemps, ces deux-là.
Depuis longtemps. Oui, oui. On est très heureux d'inviter cet immense talent, cette très grande promesse musicale. Et comme le disait Eric, dans ce monument du piano qui est le clavier bien tempéré.
C'est un programme incroyable. Hein,
c'est un programme incroyable qui devrait nous laisser un immense souvenir.
Ah oui, je pense qu'on le reverra, celui-ci. Peut-être même qu'on le reverra avec l'Orchestre du Capitole dans les années qui viennent.
Ça ne
paraît pas impossible.
Assez proche.
Voilà, 23 ans, et apparemment, il est tombé dans Bach quand il était petit.
Il jouait le premier livre à 10 ans.
Voilà, ouais.
Donc, ce sont des choses qui nous paraissent quand même, pour le moins, surprenantes.
mais pour lui, ça doit être habituel. Oui, mais je joue du Bach depuis tout petit, tous les jours. Voilà. Autre grand rendez-vous à ne pas manquer le 25 septembre, le concert du Québécois Marc-André Hamelin, immense pianiste, également compositeur. Lui, on l'a déjà entendu plusieurs fois, Jacobin, et c'est toujours un bonheur de l'y retrouver. Quel programme va-t-il jouer ce soir-là, Paul Arnaud ?
Alors, je voudrais dire un petit mot sur Marc-André Hamelin, parce qu'on parlait tout à l'heure de Philippe Bianconi et du public français. Je pense, et Catherine le pense aussi, que Marc-André Hamelin est dans le panthéon aujourd'hui.
Pour moi, c'est un des 10 meilleurs pianistes du monde. Hein,
voilà.
Il y a énormément de pianistes.
Dire ça, mais c'est un géant du piano, une figure en plus d'une grande, grande force intellectuelle avec des partis pris musicaux extraordinaires et qui n'a absolument pas la reconnaissance qu'il mérite au niveau national. Parce qu'à l'international, grâce au ciel, quand même, il est célébré beaucoup plus qu'en France. On le réinvite donc, je pense qu'on le réinvitera encore dans le futur parce que c'est réellement un géant du clavier aujourd'hui. Il a des programmes incroyables. Tout le monde se souvient de son Amer Clavier. Je ne sais plus si c'était il y a 2 ans ou 3 ans.
C'était une Hamelin Clavier.
Hamelin Clavier qui avait été proprement stupéfiante. C'est ces concerts dont on reste longtemps imprégné après l'avoir écouté. Et donc, il revient avec, on va dire, des compositeurs qu'il affectionne particulièrement, Haydn, Beethoven, Mettner, et puis Rachmaninov.
Il y a Étude Tableau. Ouais.
Étude Tableau et sa sonate numéro 2, qui n'est pas tellement jouée finalement
et
au
non.
concert,
non.
pour des raisons que l'on peut comprendre.
Oui.
Mais
tout le monde n'a pas les mains de Rachmaninov qui est
non, exactement.
Mais c'est un magnifique artiste et c'est un homme, c'est un humaniste, Marc-André Hamelin. C'est quelqu'un qui a une approche de la vie positive et pour qui la musique fait partie d'un tout. Vraiment d'un projet de vie.
Non, c'est un très, très grand, et on ne va pas se priver de l'écouter, Marc-André Hamelin, dans cette émission. Il joue ici, ben justement, la sonate numéro 2 en si bémol mineur, opus 36 de Serge Rachmaninov. Le début de la sonate numéro 2 en si bémol mineur, opus 36 de Serge Rachmaninoff, joué par Marc-André Hamelin, une des pièces au programme de son concert du 25 septembre. Et le 26, c'est une jeune pianiste britannique qui se produit au cloître, Isatta Kané-Mason. Encore un nouveau visage et une des nouvelles musiciennes que l'on va découvrir cette année, son programme Paul Arnaud.
Bien, Haydn, Schumann, Nielsen, moins connu, Gubaidulina, moins connu, mais dans la Chaconne, pour moi, est un des grands chefs-d'œuvre du XXe siècle au piano. C'est une pièce absolument...
C'est une compositrice qui est toujours vivante, d'ailleurs.
Oui, une pièce absolument magnifique. Bon, la sonate numéro 3 de Chopin, qui sera à nouveau jouée, mais donc programme très éclectique. C'est une pianiste qui a été très connue parce que son frère, violoncelliste Chekou, a fait une carrière internationale un petit peu éclair, notamment grâce à sa présence à certaines manifestations de la cour d'Angleterre. Mais c'est une pianiste de cette nouvelle génération qui a des approches très éclectiques des compositeurs et aussi de cette formidable formation qu'est le Royal College of Music à Londres, qui a vraiment permis de faire advenir toute une génération de grands musiciens. Et sa carrière se passe très très bien. On est ravis de l'accueillir au Club des Jacobins, bien évidemment.
C'est encore un programme très ouvert. Hein.
Et un programme très ouvert
de
aussi.
Même de Haydn à Gubaidulina, il
oui,
faut
oui,
le faire.
Oui,
hein,
oui, oui, oui. Oui. Eh bien, en parlant de grand écart, le lendemain, le vendredi 27 septembre, on va faire un grand écart parce qu'on passe d'une toute jeune musicienne au patriarche de cette 45e édition, le basque espagnol Joaquín Achucaro, qui doit être un des pianistes en activité les plus âgés, si ce n'est le plus âgé, puisqu'il a quoi, 93 ans ?
94.
Bientôt 94. Voilà, un ami du festival aussi, parce que lui, il a souvent été programmé. Mais il vient en voisin, parce qu'il habite à Bilbao.
Absolument. Hein. Il nous a fait l'amitié de venir avec nous aussi dans le festival Piano Jacobin en Chine. Il est venu avec nous au Japon. Donc, c'est un pianiste qui nous a accompagnés un petit peu dans toutes nos péripéties en Extrême-Orient. Et on était très, très heureux de passer ces voyages avec lui. D'ailleurs, il a titré son concert « Mes chers compagnons de voyage ».
Et oui,
que le titre est absolument magnifique.
Ah oui.
Parce que, comme disait Joaquín, la vie d'un soliste, pianiste ou les autres solistes, c'est que ce sont des vies très solitaires quand même.
Ah oui. Ah
ben et donc, même si lui a eu la chance de voyager très souvent avec son épouse, qui est sa muse et sa protectrice, qui est musicienne aussi évidemment, mais c'est vrai que c'est une vie de solitaire et que souvent les compositeurs, ce ne sont pas simplement des inspirateurs, ça finit par devenir des amis, des êtres avec lesquels on converse, avec lesquels on entretient des relations peut-être changeantes, hein, parfois très pacifiques et parfois un peu plus compliquées, ce qui explique aussi que dans des carrières, il y a des compositeurs avec lesquels on passe plus de temps à certains moments qu'avec d'autres, etc. Et je trouve ce titre, Mes chers compagnons de voyage, absolument magnifique et ça ouais. définit toute la philosophie de Joaquín Achucaro, pour qui la musique n'est pas simplement l'interprétation, mais c'est une manière de vivre avec. On vit avec des compositeurs.
C'est un art de vivre, évidemment.
Un art de vivre, et un art de vivre que l'on transmet au public. Voilà, ça c'est...
Mais un concert, c'est un voyage, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça,
mais
moi, à chaque fois, moi, c'est un voyage. Moi. Je me laisse prendre par la main, par le musicien
oui,
ou l'orchestre.
Exactement. Et puis il y a une sorte de manifestation d'amitié avec les œuvres. Hein,
bien sûr.
De compagnonnage, comme il le dit lui-même. Hein.
Bien sûr, donc, bien sûr.
Et vous allez voir que ses compagnons de voyage, ils voyagent en première classe. Hein.
Oui,
Bach, Chopin, Brahms, Debussy, Ravel, Granados, Albéniz, il faut des Espagnols
ça,
quand même.
Hein.
Et
c'est...
encore Rachmaninoff. Bon, vous avez remarqué qu'il y a Debussy et Ravel parce que c'est un grand, grand amoureux de la musique française.
Bien sûr.
Achucaro,
bien sûr.
Grand, grand amour. Alors, il ne faut pas le rater, ce concert, parce que j'ai bien peur que ça va être la dernière fois.
Oui, oui,
va
oui.
Voir,
pas, ben, il annonce, lui, hein, d'ailleurs, il annonce qu'il fait ses derniers récitals, alors qu'il est, je tiens à préciser, que l'année dernière encore, il faisait 8 km de vélo tous les jours.
Donc, il n'y a pas de secret.
Il n'y a pas de secret, mais c'est un grand vivant. Voilà. Pour moi, la définition de John Joaquin, c'est un grand vivant. Et ça me rappelle aussi, c'est très espagnol, j'aime énormément l'Espagne. Et je me souviens d'avoir passé une feria espagnole avec un membre de l'Académie royale de littérature espagnole, l'équivalent de l'Académie française. Donc j'étais très flatté. C'est un de mes amis peintres qui me l'avait présenté. Et je lui dis, il était 3 ou 4 heures du matin, je lui dis, je suis quand même très impressionné de voir un membre de l'Académie royale qui aime autant la fête que vous. Il me dit, mais évidemment, parce que vous ne connaissez pas mon plus grand titre universitaire. Ah bon ? Je lui dis, quel est votre plus grand titre universitaire ? Je suis docteur de la nuit. C'est d'une beauté.
Titre universitaire.
Ce qui n'existe pas, bien sûr. Mais c'est magnifique, quoi. Donc, un immense universitaire qui dit le plus beau titre, il n'existe pas, c'est
l'amour de la nuit.
L'amour de la nuit. Et Joaquin pourrait dire l'amour du piano. Voilà.
Hommage à Joaquin Achucaro, ce grand amoureux des compositeurs français, comme je le disais il y a quelques instants, avec cette pièce de celui qu'il aime appeler Claude de France. On l'écoute jouer La cathédrale engloutie de Claude Debussy. La cathédrale engloutie de Claude Debussy, interprétée par Joaquin Achucaro, peut être une des pièces qu'il va jouer le 27 septembre lors de son concert au cloître. Le 28 septembre, il y a donc le concert du pianiste de jazz Tom Oren. Et le 30 septembre, concert de clôture avec la pianiste italienne Béatrice Ranna. Elle, on l'a déjà entendue au festival il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Elle va nous jouer quoi? Alors, il y aura encore un certain Ravel.
Il y a encore un certain Ravel, et pas n'importe quel Ravel, parce qu'il y aura Gaspard de la Nuit et la valse. Alors, la valse aussi, on parlait de la cathédrale engloutie, c'est un autre engloutissement, la valse. Hein. C'est la disparition d'un monde.
C'est un effondrement à la fin.
Hein. Un effondrement,
ouais. Je pense. L'Europe qui s'effondre, après la Première Guerre mondiale.
Et très lié au contexte de sa composition.
Ah, mais c'est sûr.
Ça ne peut pas être composé à une autre date qu'il l'a composé.
C'est pour ça qu'il a choisi la valse, d'ailleurs, la valse viennoise. Là,